Juste une annonce supplémentaire, c'est que lundi à mercredi, nous aurons le pasteur Steve Barnes qui va enseigner à l'Institut biblique le matin, les 3 matins, et il va enseigner comment évangéliser les musulmans. Donc Steve Barnes, c'est quelqu'un qui a vécu en Algérie, qui parle l'arabe, qui connaît très très bien le monde musulman et comment leur parler de Jésus. Et donc ses cours, si ça vous intéressait, vous pourriez venir aussi, ce serait ouvert aux visiteurs. Voilà, lundi matin, mercredi matin, lundi matin, mardi matin, mercredi matin, entre 9h et midi, donc les horaires des cours, des étudiants. À Villebon-sur-Yvette. Il faut mériter, hein, Voilà pour la dernière annonce. Donc, on va commencer. Donc, c'est le dernier message dans cette série sur la persévérance. Nous avons vu persévérer dans la volonté de Dieu, persévérer dans les épreuves ou l'adversité, persévérer dans la prière. Et là, c'est persévérer. Hébreux 13, 1. Nous allons voir dans quoi. Hébreux chapitre 13, verset 1. Un petit verset qui veut dire beaucoup. Persévérer dans l'amour fraternel. Voilà, l'amour fraternel est un immense sujet qu'on va juste voir sous l'aspect de la persévérance. Mais s'il y avait vraiment de l'amour et plus d'amour fraternel, les églises seraient plus réveillées, plus vivantes, il y aurait plus de fruits, plus de gens touchés aussi au dehors. On parle beaucoup de l'amour dans les églises, mais on le pratique peu et on va voir, on arrive très peu souvent à l'amour, vraiment. On vise, on essaie d'y arriver, mais l'amour, selon Dieu, on l'atteint rarement. Alors que Dieu veut qu'on persévère dans l'amour fraternel. Aujourd'hui, la persévérance n'est plus considérée comme une vertu, encore moins dans les relations humaines. Être fidèle en amitié ou en amour, c'est même ringard, c'est nul, c'est ridicule. Comme disent les magazines, oui, je suis fidèle à moi-même. Voilà. Donc là, on est fidèle à soi-même, mais fidèle à quelqu'un d'autre, c'est ridicule. Il n'y a plus de persévérance, de fidélité dans les relations, et ça fait des drames. Ça fait une société morcelée où on n'arrive plus à avoir des repères, puisque tout change en permanence, tout bouge. Il n'y a plus cette persévérance où on construit quelque chose. S'il y a un domaine où il faut vraiment persévérer, c'est dans l'amour, justement. Alors, on a une fausse idée de l'amour qui vient de notre monde, justement, qui ne le comprend pas souvent ou qui ne l'accepte pas, l'amour de Dieu. On pense que l'amour, c'est un sentiment qui vient et qui va. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai reçu de l'amour, je t'aime, et puis c'est parti, demain, c'est parti, désolé, je ne t'aime plus. Je passe à quelqu'un d'autre. Et vraiment, cette idée de l'amour, oh, on est tombé amoureux, je suis tombé amoureux, et puis un mois plus tard, ben, je t'aime plus. Bon. Ou 3 ans plus tard, après un mariage, ah, on divorce. Donc ça fait vraiment des drames. Dans le même ordre d'idée, on pense que l'amour, c'est une sorte d'émotion incontrôlable. C'est une émotion qui flotte, et puis des fois, elle s'empare de vous. Oh, j'aime, oh, je t'aime, oh, je vous aime. Et puis, hop, elle repart comme elle est venue et j'ai rien contrôlé. C'était très fort, c'était très froid. On pense que l'amour, c'est ça, une sorte de gaz qui flotte et qui touche des gens et qui est incontrôlable. Chez d'autres aussi, l'amour est une sorte de choix arbitraire. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'aimer, mais demain, j'ai décidé de ne plus t'aimer. C'est moi qui décide, et puis toi je t'aime, et puis toi je t'aime plus, et puis toi finalement je t'aime toi et je t'aime plus. Et ça fait là encore des souffrances terribles parce que on dit, mais tu as dit que tu m'aimais et maintenant tu m'aimes plus, et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, ça fait vraiment des choses produisent beaucoup de souffrance. Or, dans la Bible, Dieu dit persévérer dans l'amour fraternel. Le mot là, c'est pas le mot habituel pour persévérer, c'est le mot demeurer, rester dans l'amour fraternel. Maintenez-vous dans l'amour fraternel, parce que l'amour, c'est quelque chose qui effectivement a tendance à se refroidir. On le compare souvent à un feu. Et un feu, comment on arrive à le garder brûlant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'entretenir. Et c'est ça le côté persévérance. Si on n'entretient pas le feu, il finit par s'éteindre par faute de bois, comme on dit, faute de comburant ou de combustible. Et il y a un besoin d'un entretien. Et c'est ça que l'on doit faire, nous, entretenir cet amour. Cet amour ne vient pas de nous. D'où vient l'amour que nous avons? Le Saint-Esprit de Dieu en nous. Donc le feu ne vient pas de nous, mais par contre, notre responsabilité, c'est de nous maintenir dans ce feu, de l'entretenir. Sinon, il s'éteint. Et c'est là souvent l'erreur qu'on commet. On pense que l'amour venant de Dieu, il va rester comme ça, tout va bien, j'ai plus qu'à le laisser agir. Mais j'ai une part aussi dans l'amour de Dieu, c'est de l'entretenir, de l'augmenter même, hein, de le faire vivre dans ma vie, dans mon cœur. On ne doit pas s'arrêter d'aimer. Alors la persévérance, c'est vraiment le test du véritable amour. Si j'aime, selon Dieu, je dois persévérer dans cet amour. Si je ne persévère pas, c'est que mon amour, franchement, n'allait pas très loin. Il était peut-être même vide. C'est une coquille vide. Par exemple, l'amour pour le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'amour pour Dieu? On dit souvent, hein, oh, j'aime Dieu ou j'aime Jésus. Ou, voilà. Mais la Bible dit, tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, c'est bien. Alors on va voir si tu persévères avec lui. On va voir si tu l'aimes jusqu'au bout. Notre frère nous a parlé des souffrances qu'on doit parfois endurer lorsqu'on aime le Seigneur, lorsqu'on suit le Seigneur. Est-ce que tu es prêt d'aller jusqu'à souffrir parce que tu aimes Christ, parce que tu portes son nom? Jésus a dit un jour à ses disciples en Luc 22, 28, vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est une phrase très touchante. Parce que le Seigneur a été continuellement harcelé. Et on parle de harcèlement aujourd'hui, et lui, il sait ce que c'est, hein, d'être harcelé, questionné, épié, trompé. Même au sein de ses disciples, il y avait Judas, hein, le traître. Mais il y avait les pharisiens qui envoyaient des espions et qui l'espionnaient tout le temps dans la foule, qui lui posaient des questions pièges, hein. Et Jésus a vécu tout ça sans parler de ceux qui voulaient le tuer carrément, hein. Plusieurs fois, ils ont voulu le mettre à mort, directement le pousser d'une falaise, etc. Et ce n'était pas l'heure, donc ça n'a pas eu lieu. Mais un jour, c'était le moment que Dieu avait prévu. Et ils ont dit, crucifie-le. Et Pilate a crucifié le Seigneur. Mais lui, il dit, vous, mes disciples, vous avez persévéré avec moi dans tout ça. Franchement, les 3 ans et demi que les évangiles nous racontent de la vie de Jésus, de la fin de vie, il fallait l'aimer pour le suivre. D'abord, il ne dormait pas dans des beaux hôtels, hein. Ce n'était pas les 3 étoiles, la tournée des restaurants et des plages, hein. Ce n'était pas le club méditerranéen, c'était beaucoup de marches dans la journée, sous le cagnard, dans le soleil. C'était très désertique. Il y avait aussi des champs, hein. Parfois, ils avaient tellement faim qu'ils devaient manger des épis dans les champs parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et puis, beaucoup de marches, beaucoup d'enseignements. Jésus enseignait beaucoup parce qu'il avait peu de temps, donc il fallait qu'il leur dise beaucoup de choses. Et puis, entre eux, des jalousies, des querelles. Et puis, ils ont vu, et bien sûr, des choses extraordinaires. Ils ont vu ces miracles. Ils ont vu Moïse et Élie sur la montagne, la gloire de Christ. Ils ont vu des choses. Mais il fallait persévérer. Et une poignée seulement a persévéré. Hein. Une poignée seulement. Est-ce que nous faisons partie de ceux qui persévèrent avec Christ? Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit le Seigneur. C'est-à-dire, vous allez me suivre, m'obéir. Vous allez respecter mes paroles. C'est ça le test du vrai amour pour le Seigneur. Il y a des chrétiens qui disent j'aime Dieu parce qu'il m'a sauvé ou il me sauve, mais dès que Dieu me demande quelque chose, alors là, j'ai mon libre arbitre, je dis non, non, c'est trop dur. Moi, ce que je veux, c'est être sauvé, c'est tout. Mais ça, c'est pas aimer Dieu. Être sauvé, c'est une sorte de réflexe naturel. Hein. Conservation, réflexe de survie. Je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas mourir, je ne veux pas être perdu. Et ça, c'est naturel. Et y a rien, c'est ni bon ni mauvais, c'est naturel, c'est un réflexe. Par contre, aimer le Seigneur, ça, ce n'est pas naturel. Et ça veut dire, Seigneur, je choisis de te suivre. C'est ce qu'on fait et ce qu'on dit dans le baptême. On dit, je veux vivre pour Christ et avec Christ jusqu'à la fin de mes jours. Là, il y a une différence entre quelqu'un qui dit « oui, je crois en Jésus » et quelqu'un qui est baptisé qui dit « je veux suivre Christ ». Il y a une grande différence. Il y a cet amour persévérant hein, qui dit « maintenant, je m'engage à ses côtés ». Mais c'est pareil aussi dans l'amour fraternel avec nos frères et sœurs chrétiens. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 10, il dit « par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres ». Par honneur, user de prévenance réciproque. Ça, c'est la persévérance dans l'amour fraternel. On peut dire, j'aime les chrétiens, j'aime mes frères et sœurs dans l'Église. Mais ne jamais leur montrer d'affection. Ici, il parle d'affection, d'être affectueux. Il parle d'user de prévenance. Donc, qu'est-ce que c'est une prévenance? Alors, il y a le fait de penser à l'autre avant soi-même. Dedans, il y a la politesse, effectivement, parce que la politesse, c'est faire passer l'autre avant soi aussi. Pas forcément des désirs, mais au moins des besoins déjà. Parce que si on devait satisfaire tous les désirs des gens, on ne pourrait pas. Mais c'est vrai, aller au-devant où parfois les personnes n'expriment pas leurs besoins ou leurs souffrances, c'est à nous, par prévenance, de dire « mais il a besoin, elle a besoin ». D'aide, de prière ou d'encouragement. Et ça fait partie de l'amour. Si je dis je t'aime, et puis comme dit Jacques, hein, il est tout nu, et va te chauffer hein, puisque tu es tout nu, ça, ce n'est pas de l'amour. Je t'aime, je vais t'aider, je vais être affectueux, je vais avoir usé de prévenance. Et ça doit être réciproque. Ce mot revient très souvent dans le Nouveau Testament, les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué en lisant les Épîtres notamment. Les uns les autres, les uns les autres. Il y a une chanson de Starmania dans les années 80, pour ceux qui sont des années 80. Les uns et les autres, on est les uns contre les autres. C'est les Canadiens, je crois, qui chantaient ça. Et ça résumait très bien que dans le monde, on est souvent les uns contre les autres. C'est-à-dire, on passe son temps à se taper dessus. L'enfer, c'est les autres. Mais dans l'Église, ça ne devrait pas être comme ça. Ça arrive trop souvent. Malheureusement, c'est comme ça. Mais entre frères et sœurs, on doit être les uns avec les autres, les uns pour les autres, réciproque. L'amour, le pardon, l'encouragement réciproque. On doit échanger. Et puis, la persévérance, c'est aussi pour l'unité. Éphésiens 4, 3, l'unité de l'Église locale en particulier, il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a un effort là, d'amour. J'aime mon Église, je veux qu'elle soit unie, je veux qu'on soit unis entre frères et sœurs. Je veux persévérer. C'est facile de détruire une Église, tellement facile. Vous semez une petite division par-ci, par-là, touc-touc, des petites paroles, tu sais, elle t'a dit ça, ou j'ai parlé avec elle et elle a dit ça sur toi. Ah bon ? C'est vrai ? Ouais. Et puis, alors, vous allez voir l'autre, et puis j'ai parlé avec l'un, et puis vous semez des petites choses, et à la fin, vous avez une explosion. Hein. C'est très, très facile. Par contre, pour arrêter une rumeur, c'est très compliqué. Et nous sommes appelés à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, de garder la paix. Tout ce qui met en danger la paix entre nous. Vade retro, Satanas. Hein. Je ne veux rien entendre sur ces choses-là. Nous avons en ce moment l'occasion de prier et peut-être d'aider une église en grande difficulté qui a explosé. Pas littéralement, mais figurativement. Voilà. Non, c'est pas en Corse, non. C'est une église ailleurs. Et donc, cette église, Il y a eu des choses qui sont passées qui font que les chrétiens sont tous partis dans l'espace, hein, dans tous les sens. Et on a parlé avec un des frères là qui dit, moi, je veux rester là. Et moi, peu importe ce qui se passe, c'est mon église. Et je ne veux pas faire d'histoire. Je ne veux pas jouer les chefs ou essayer de... Moi, si on me met un pasteur là, je vais le suivre. Je veux bâtir l'église. Je veux construire cette église. Et j'ai trouvé ça quand même un très bon esprit. C'est ça la persévérance de l'amour. Moi, je veux bâtir mon église. Je veux que ça marche, je veux que ça avance, je veux que ce soit la gloire de Dieu. Ça, c'est la persévérance dans l'amour fraternel. Ça veut dire qu'au moment où cet amour est menacé ou tenté de s'éloigner, de se refroidir, non, je vais persévérer dans l'amour pour mes frères, pour mon église, pour l'unité de mon église. Alors, dans l'église, j'ai trouvé que on peut dire qu'il y a quatre niveaux de relations positifs. Le niveau de relation neutre, c'est l'indifférence, zéro. Complètement indifférent. Pour moi, c'est même négatif, hein, l'indifférence. Mais au niveau positif, il y a quatre niveaux. Il y a d'abord la relation cordiale, hein. Vous savez, quand on signe cordialement, ça veut dire c'est cordial, on n'est pas fâché, on n'est pas ennemi, on n'est pas non plus des grands amoureux. Cordial, bonjour, bonsoir, il fait beau aujourd'hui, non, il va pleuvoir. On se croise dans l'église, tout va bien. Rien de ni pour ni contre, cordial. Deuxième niveau qui est un peu plus avancé, c'est la camaraderie. Relation de camaraderie, c'est-à-dire on se connaît depuis un moment, on rigole ensemble, on est content d'être ensemble, mais on n'est toujours pas du tout dans l'amour là. On est dans la camaraderie comme des bons camarades, on fait des trucs ensemble, on est dans la même église, on est solidaires, mais il n'y a pas l'amour, c'est juste la camaraderie. Et puis on monte d'un cran, on arrive à ce que la Bible appelle l'amour fraternel, Philadelphia. C'est un très beau mot qui a donné le nom de la ville Philadelphie. Philadelphia, c'est que c'est cette amitié, je dirais, fraternelle, où on prie les uns pour les autres, où on est lié par quelque chose de fort, par le salut, dans le culte, on chante ensemble, on est content de se réunir. Il y a vraiment déjà un début d'amour là. C'est Pierre qui parle, hein. Il fait une distinction entre l'amour agapé et l'amour fraternel, l'amitié fraternelle, Philadelphia. C'est deux mots, et Pierre, dans la même phrase, met les deux. Parce qu'il y a une distinction. Et le dernier niveau, vous avez compris, le quatrième, c'est l'amour divin, agapé. Pourquoi il est différent? Parce que l'amour divin, c'est celui qui va se donner, qui va se sacrifier jusqu'à la mort. Dieu a dit à son peuple en Jérémie 31, je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma bonté. Et il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous remarquez qu'on peut être en bonne entente cordiale, on peut être en bon camarade, on peut être même dans l'amitié fraternelle, mais dans l'amour, c'est quand on dit je suis prêt à mourir pour ce frère, pour cette sœur. Je suis prêt à sacrifier des choses pour ce frère, pour cette sœur. À sacrifier mon ego, à sacrifier mon confort, à sacrifier des biens matériels, à sacrifier ma place, à sacrifier ma vie. Ça, c'est l'amour. Vous comprenez peut-être maintenant un peu plus pourquoi on est rarement dans l'amour? C'est que on est rarement dans ce don de soi pour l'autre. Et pourtant, c'est ce que Dieu a voulu dans son plan. Quand il nous a rachetés, qu'il nous a donné son esprit, il a dit aimez-vous les uns les autres. Il dit ça aux chrétiens. Et quand il dit aimez-vous les uns les autres, c'est devenu une phrase tellement... ça n'a plus de sens. C'est galvaudé. Aimez-vous les uns les autres, ça veut dire il faut se faire des sourires. Et c'est pas ça, aimez-vous les uns les autres. C'est est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour l'autre? Christ a donné sa vie pour moi. C'est ça le niveau de l'amour. Même dans l'amitié, on peut, dans une église ou en dehors d'une église, avoir des amis. Et la Bible nous dit que nos amis, on doit les aimer avec persévérance. J'aime bien ce verset de Job 6,14 qui dit: Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Que ça veut dire cette phrase de Job? Ça veut dire que si j'ai un ami, c'est mon ami, et qu'il s'éloigne de Dieu, qu'il abandonne la crainte du Tout-Puissant, il ne craint plus Dieu, il ne croit plus en Dieu, s'il souffre, je dois avoir compassion de lui et venir à son aide. Ça, c'est la persévérance dans l'amour, dans l'amitié. Parfois, quand on devient chrétien, on coupe avec tous ses amis qui ne veulent pas accepter l'Évangile. Hein. Vous ne voulez pas accepter l'Évangile? Bon, je ne veux plus vous voir. Mais c'est une erreur. C'est une erreur de jeunesse, souvent, hein, une erreur de une maladresse. C'est qu'on veut se garder pur, parce qu'on dit, oui, mais ces amis-là, ils font des trucs, ils disent des choses, ils ont un langage, je préfère... Mais si on est vraiment amis, ça dépend si c'est des camarades de classe, bon, c'est autre chose, mais si c'est vraiment des amis, ou s'il y a un ami dedans, on doit persévérer dans cette amitié, dire, moi, un ami, c'est un ami. Peu importe ce que tu crois, ce que tu penses, tu es mon ami, le jour où tu as un problème, je serai à tes côtés. C'est ce que dit le proverbe 17:17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Hein, on dit, on voit les amis dans le malheur. Et c'est le cas, ça doit être le cas d'un chrétien. Il doit persévérer dans l'amitié, dans l'amour pour ses amis. Dans le couple aussi, on doit avoir cette persévérance de l'amour. On en a déjà parlé l'autre fois avec Éphésiens. Dans la Bible, c'est curieux, dans l'Ancien Testament, il parle souvent de l'ami de sa jeunesse. Il y a cette expression, par exemple, en Proverbe 2:17. Proverbe 2:17. L'ami de sa jeunesse. Voilà. Fais attention de te délivrer de la femme étrangère, verset 16. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Et dans un autre passage, il parle de la femme de sa jeunesse. Apparemment, dans la culture de l'époque, hein, on rencontrait son épouse ou son conjoint très tôt. Et on était promis assez tôt, l'un à l'autre. Et donc, souvent, dans la jeunesse, on disait, ça, ce sera mon épouse, ça sera mon mari. Voilà. Et ceux qui s'égaraient dans le péché, hein, loin de Dieu, ils oubliaient cette promesse et ils allaient à droite, à gauche. Et Dieu leur fait ce reproche. Hein. Ils s'égarent loin de l'ami de sa jeunesse. Et aujourd'hui, on encourage les jeunes très tôt, hein, la précocité des relations sexuelles et autres, effrayante. On les encourage à butiner comme des insectes sur des fleurs, hein, à aller de fille en fille, de garçon en garçon, et parfois l'un et l'autre. Et on dit, mais c'est bien, c'est la liberté, c'est naturel, c'est la nature. Comme ça, ils font leur découverte et après... Et qu'est-ce qu'on découvre, ceux qui sont dans la psychologie ou qui font des études statistiques sur les mariages et les divorces, se rendre compte que les relations sexuelles avant le mariage causent plus de divorces que les personnes qui sont vierges au moment de leur mariage. C'est-à-dire les personnes qui se sont gardées pures et qui sont vierges au moment de leur mariage vont beaucoup moins divorcer que les personnes qui ont flirté à droite à gauche. Il y a de plus en plus de mouvements maintenant d'adolescents et de jeunes pour la pureté avant le mariage. Hein, et c'est un combat... qui est considéré avec mépris par notre monde bien-pensant. Mais je pense que dans une église, et en tant que parent et en tant que chrétien, on doit encourager ça, la pureté pour le mariage. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas, on ne peut pas la recréer. Si on s'est converti plus tard, ben voilà, c'est tant pis. Mais on doit aussi quand même avoir cette pureté dans le cœur. Et dire, Seigneur, voilà, je veux persévérer et avoir un amour pur. Pareil, dans le mariage, Malachie 2,14, hein, Dieu fait des reproches au peuple juif de l'époque. Hein, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il leur fait de nombreux reproches, notamment, verset 13 de Malachie 2, « Voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. » En sorte qu'il n'a plus égard à vos offrandes. Il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, mais pourquoi ? En fait, Dieu avait retiré sa bénédiction et ne répondait plus à leurs prières. Et ils disent, mais pourquoi tu ne réponds plus? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Dieu reproche cette infidélité profonde. Quand on est infidèle avec son épouse, on peut être infidèle avec Dieu, hein, c'est une image aussi. Et Dieu est pour la fidélité, pour la persévérance dans l'amour. Comme on a vu, l'amour n'est pas juste une émotion, un sentiment. L'amour, c'est un don de soi. Ça veut dire, avec persévérance, je veux me donner à mon conjoint, je veux me donner à mes amis, je veux me donner à mes frères et sœurs. C'est un engagement, ce n'est pas un sentiment. Ça n'a rien à voir. Un sentiment, ça va, ça vient. Le matin, vous vous levez, vous êtes plein d'amour, et le lendemain matin, vous vous levez, vous êtes plein de, je sais pas, d'amertume. Et c'est comme ça, on a des hormones, Bon, c'est l'être humain. Mais il y a quelque chose au-dessus des hormones et des cycles hormonaux. Il y a l'amour, l'engagement. Peu importe que je me lève content ou pas content. J'aime le Seigneur et je veux l'aimer aujourd'hui. J'aime mon conjoint, je veux l'aimer aujourd'hui. J'aime mes frères et sœurs, je veux les aimer aujourd'hui. Peu importe qu'ils soient aimables avec moi, qu'ils soient gentils, ou ça m'est égal qu'ils me disent bonjour ou pas, je les aime à cause du Seigneur. C'est ça, persévérer dans l'amour, et fraternel en particulier. Je terminerai ce soir avec l'amour divin entre frères et sœurs qui laisse toujours une porte ouverte. C'est là où la persévérance devient quelque chose de clé et de très difficile pour nous humains. Hein. L'amour peut être maltraité, peut être trahi. Quelqu'un peut fouler aux pieds notre amour. On peut dire je t'aime et puis la personne. Pff, quand on reçoit des coups comme ça, des blessures terribles dans son amour, hein, on ne persévère pas dans l'amour. On a tendance à dire bon, ben, terminé, hein, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Pourtant, l'amour divin laisse toujours une porte ouverte à l'autre. Une porte ouverte pour sa repentance, pour demander pardon, pour le pardonner et pour le restaurer. C'est ça qui fait la beauté du salut. Imaginez que Dieu dise, au bout de 10 péchés, la porte du salut sera fermée. Ah, toi, tu es arrivé à 9. Attention, le prochain, c'est terminé. Vous imaginez l'angoisse, l'horreur. Hein. Bon, qui arriverait à ne pas pécher plus de 10 fois? Fort heureusement, Dieu supporte un grand nombre de péchés de notre part. Et il laisse toujours une porte ouverte, même, je suis certain, jusqu'au dernier souffle. Hein. Repens-toi. Il nous cherche, il nous aime. Même quand on le fuit à fond, à toute allure, lui, il nous court après, il nous cherche, il nous appelle encore. Il envoie des témoins, des témoignages, des choses qui se passent. C'est l'amour persévérant de Dieu pour nous. Et nous devons avoir, nous aussi, cet amour qui laisse toujours une place à restaurer, à sauver la personne, à son pardon. 1 Corinthiens 3,7 est le verset clé là. 13,7, pardon. 1 Corinthiens 13. Hein. Ce grand passage sur l'amour divin. D'ailleurs, on pourrait remplacer amour par Christ hein, dans ce passage. Mais dans le verset 7 en particulier, il dit: l'amour divin excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Alors la traduction est un peu déstabilisante, excuse tout. Le mot là veut dire couvre tout, plus précisément. Or, couvre tout, c'est ce qu'on retrouve en 1 Pierre 4, 8. Vous connaissez peut-être ce verset. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une différence entre excuser et couvrir. Parce que excuser, ça veut dire, oh ben oui, il a tué quelqu'un, ben il faut l'excuser. Hein. Non, l'amour n'est pas comme ça. L'amour n'excuse pas n'importe quoi, tout. Mais par contre, l'amour est prêt à couvrir. C'est-à-dire, si on s'arrêtait sur chaque défaut, ou sur chaque petite offense, si à chaque fois qu'on reçoit une petite offense, ou une petite maladresse, ou un truc, on dit, ah non, ah là, c'est impardonnable! Il n'y aurait plus de relations humaines. On serait tous enfermés chacun dans sa cabane et on ne parlerait plus à personne. Qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne ensemble, que ce soit dans la société ou même dans l'église? C'est qu'on couvre pas mal de choses. Bon, cette personne, des fois, bon, mais par amour, je supporte, par amour, je couvre. Et on ne tient pas une liste des offenses que vous nous avez faites, que les frères et sœurs m'ont fait. J'espère que vous n'avez pas une liste comme ça chez vous. Ou si vous l'avez, brûlez-la vite. Alors, un tel, qu'est-ce qui m'a fait... Oh, tu te rappelles le 12 janvier 2007, à 15h23. Voilà, on ne tient pas des comptes, on couvre. Comme Dieu a couvert les péchés du peuple d'Israël pendant l'Ancien Testament. Et cette persévérance dans l'amour va couvrir. Pourquoi? Dans quel but? On ne va pas couvrir juste pour cacher la misère ou pour dire, de toute façon, rien n'est important. Non, c'est important quand on est offensé, ça fait mal. Mais on couvre pour le progrès de l'autre, pour que l'autre puisse se repentir, puisse avancer aussi. Et l'amour cherche l'avancement. Il croit tout, il espère tout. C'est-à-dire, il est prêt à tout croire. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que nous, on a tendance à se décourager très vite. D'ailleurs, de toute façon, je suis bon à rien, je ne vais jamais y arriver. De toute façon, quoi ça sert que je persévère? Ça mène nulle part. Et Dieu dit, mais persévère, ça mène quelque part. Moi, je crois en toi quelque part. Dieu dit, je crois en toi. Alors, je fais attention avec ce genre de phrase. La foi, c'est entre nous et Dieu, ce n'est pas Dieu envers nous. Mais quelque part, Dieu voit ce qu'il peut faire avec nous. Il voit comment son esprit en nous peut nous transformer, nous rendre merveilleux, magnifique. Même il dit parfait dans la Bible, c'est-à-dire complet. Dieu voit ce qu'il peut faire avec nous. Nous, on voit où on en est, c'est-à-dire c'est très décourageant. Là où j'en suis, je suis très loin. Mais lui, il voit la fin, le résultat final. Et c'est pour ça qu'il espère tout, il croit tout. Allez, tu peux y arriver, vas-y, on ne va pas s'arrêter aux chutes, on ne va pas s'arrêter à tous les péchés, à toutes les fautes. On va les couvrir, on va aller de l'avant. Mais bien sûr, si la personne utilise cet amour pour se vautrer dans le péché et continuer en disant « de toute façon, je suis pardonné, alors allons-y », cette personne ne sera pas pardonnée. Cette personne, bien sûr, pêche contre l'amour de Dieu. Mais dans les relations entre frères et sœurs, nous sommes appelés à avoir de l'optimisme quelque part, à attendre que l'autre avance, à supporter, à croire tout, supporter tout, comme il dit, couvrir tout pour édifier le corps de Christ et qu'ensemble, on ressemble de plus en plus au Seigneur. Vous me dites, mais moi, cet amour-là, c'est une utopie, c'est de l'idéalisme, mais dans la vie quotidienne, on n'y est pas du tout, et c'est vrai, mais peut-être parce qu'on n'a pas assez de foi dans cet amour que Dieu nous donne. Cet amour, on l'a dit au début, ne vient pas de nous. Nous, on doit entretenir le feu, mais le feu vient de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'amour de Christ en nous. Et si nous le laissons s'épanouir et grandir, nous serons capables d'aimer les personnes comme ça. Lorsque vous lisez la vie de certains missionnaires qui sont morts littéralement pour apporter l'évangile à des gens d'ailleurs qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart, ils ont accepté de mourir pour eux. Quand je lisais l'histoire des missions en Afrique au 19e siècle, je l'ai souvent dit, l'espérance de vie du missionnaire, c'était 6 mois. C'est-à-dire, il arrivait dans le pays, il savait qu'il avait à peu près 6 mois à vivre avant de passer l'arme à gauche. Donc, il avait 6 mois pour évangéliser là où il était. Eh bien, vous me croyez ou pas, mais il n'y a jamais manqué de missionnaires à cette époque-là. Il n'y a jamais des gens qui ont dit « Oh là là, non !» On arrête la mission en Afrique, c'est trop dangereux. Non, il y a toujours eu des missionnaires et ils ne venaient pas en Afrique en disant « j'ai 6 mois à vivre », c'est nous qui disons ça. Eux, ils disaient « Dieu m'appelle en Afrique, je vais y aller ». Mais souvent, ils mouraient de fièvre, de maladie, etc. Ou de tués par les habitants. Et c'est ça, cet amour divin. On dit « mais comment ils faisaient ?» Mais ils avaient l'amour de Dieu. Est-ce qu'ils étaient plus spirituels que nous? Je ne pense pas. Et nous, on doit saisir cet amour de Dieu aussi. Dire, Seigneur, remplis-moi de cet amour extraordinaire qui croit contre toute espérance, qui espère tout, qui donne tout, l'amour agapé. Et que l'on quitte juste la cordialité entre chrétiens et qu'on passe à d'autres niveaux d'amitié fraternelle et d'amour les uns envers les autres. Et Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Que le monde verra que vous êtes mes disciples. S'il n'y a pas plus de disciples dans le monde, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de manifestation de cet amour divin. Si nous sommes un club de chrétiens qui s'entendent bien, hein, comme un club d'échecs, hein, ou un club de sport, les gens vont dire, ben, c'est très bien, hein, qu'ils restent ensemble. Mais si il y a cette vie dont nous parlait notre frère, extraordinaire, cet amour unique au monde, qui aime même ses ennemis, là, les gens vont dire, mais comment est-ce possible? Et ils ne vont pas chercher les miracles de guérison spectaculaires, ils vont chercher ce miracle de l'amour spectaculaire, hein, l'amour qui donne sa vie pour les autres, qui est humble, qui cherche le bien des autres. À nous de progresser dans cette direction, moi le premier, et à regarder à Christ qui rend cela possible. On peut terminer par les dernières strophes du chant. C'est mon joyeux service. Sylvain, tu veux venir pour...